Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Politiquement Incorrect. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission depuis Paris, au ministère de l'Environnement avec Barbara Pompili. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir dans vos bureaux. Vous êtes l'une des trois ministres écologistes du gouvernement rentré en février dernier et vous êtes secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Alors avec vous, nous allons revenir sur la loi pour la reconquête de la biodiversité et sur l'actualité. Alors cette loi, vous l'avez portée, c'est Ségolène Royal qui vous a demandé de la porter devant l'Assemblée nationale. Et elle a été adoptée dernièrement en seconde lecture. Elle doit revenir devant le Sénat le 10 mai prochain. Pouvez-vous nous préciser les objectifs de cette loi ?
Alors c'est une des grandes lois sur la biodiversité qui va un peu structurer le paysage de la biodiversité. Elle reprend un certain nombre d'éléments en les organisant, comme le fameux élément très important qui s'appelle éviter, réduire ou compenser, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des aménagements prévus, des grands projets, eh bien maintenant il faudra penser à l'impact sur la biodiversité avant la genèse du projet et pas au dernier moment quand tout est déjà très avancé. Et donc il y a tout un dispositif qui est mis en place pour essayer d'éviter au maximum des atteintes à la nature et à la faune et à la flore. Si on ne peut pas, on essaye de réduire ces atteintes et si vraiment on n'a pas d'autre solution, on met en place des systèmes dits de compensation.
De ce texte émerge une nouvelle institution, c'est l'Agence de la biodiversité qui regroupe des organisations qui étaient auparavant indépendantes. Elle sera doublée d'agences régionales, vous nous le confirmez ?
Oui, je vous le confirme et c'est un des deuxièmes points très importants de cette loi, la création de cette agence pour donner une visibilité d'abord aux différents donneurs d'ordre, que ce soit les élus locaux, que ce soit les entreprises, que tout le monde sache un peu à qui s'adresser quand il s'agit de parler de biodiversité. Et donc on réunit les organismes qui sont depuis longtemps en charge de ce sujet, comme ceux qui s'occupent par exemple des aires marines protégées, les organismes qui s'occupent aussi de l'eau, de la gestion de l'eau et bien d'autres, pour pouvoir avoir cette cohérence d'ensemble sur les politiques publiques qui sont menées. Et évidemment, ça va se décliner sur les territoires. Et donc, chaque territoire va pouvoir prendre en main cet outil dans des agences régionales, mais qui seront à des limitations variables, puisque les territoires n'ont pas les mêmes enjeux. Je suis pour la biodiversité, et donc je prends en compte la diversité des territoires et des intérêts, des enjeux sur chacune des collectivités qui est concernée.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a d'ores et déjà fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention de collaborer avec l'Agence de la biodiversité, tout comme la région Hauts-de-France. Par conséquent, est-ce que cette carte des antennes régionales ne risque-t-elle pas d'être ajourée ?
Non, pas du tout, pas du tout. L'idée, justement, c'est que, encore une fois, chacun y aille à son rythme. On ne va pas imposer d'en haut une organisation. Par contre, il y a des régions qui sont très partantes pour lancer ces agences régionales. La Bretagne, par exemple, où j'étais il y a quelques jours et où on m'a redit l'intérêt de créer cette agence. Et donc, moi, ce que je veux donner, c'est un effet d'exemple. C'est-à-dire montrer là où ça fonctionne, montrer où ça rend des services pour donner envie aux autres de s'y mettre également.
Et s'ils ne s'y mettent pas ? Y a-t-il des sanctions prévues ?
Non, il n'y a pas de sanctions prévues, puisqu'il y aura toujours l'Agence française pour la biodiversité nationale et il y aura des antennes locales, donc il y aura toujours des interlocuteurs. Mais simplement, c'est à moi et aussi aux expériences locales de montrer l'intérêt pour les élus locaux d'avoir cet outil qui est vraiment un outil qui leur sera très utile dans leur projet de territoire.
Sur France 2, dans l'émission Dialogue citoyen, on y reviendra dans un instant, François Hollande a réaffirmé le calendrier en termes de nucléaire. C'est en 2019 que la liste des centrales qui devront être fermées sera rendue publique après validation d'EDF. Cependant, les problèmes aujourd'hui sont nombreux. En région Auvergne-Rhône-Alpes, au Bugey dans l'Ain, le canton de Genève porte plainte craignant pour le manque de sûreté de la centrale. Et plus récemment, dans la centrale de Paluel, un générateur de 500 tonnes a chuté dans le réacteur numéro 2 qui est en maintenance afin de permettre l'exploitation de la centrale au-delà de l'âge critique de 40 ans. Ces deux incidents vont-ils remettre en cause ou bien modifier la feuille de route gouvernementale sur le nucléaire qui sera présentée le 1er juillet prochain ?
Alors oui, j'ai entendu ça, mais je crois qu'il y a deux points qui sont très importants. D'abord, il y a la politique qui est mise en place, qui a été validée dans la loi de transition énergétique, qui dit clairement que nous devons baisser la part du nucléaire dans le bouquet énergétique pour augmenter la part des renouvelables. Ça, ça a été mis dans la loi. Maintenant, ça doit être transcrit dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va bientôt sortir et c'est une feuille de route absolument essentielle pour baisser notre part d'électricité nucléaire. Après, de toute façon, Il reste la question de la sécurité, puisque toutes les centrales ne vont pas être fermées, hein, loin de là. Donc cette question de la sécurité est absolument essentielle et c'est alors là une priorité du gouvernement de faire en sorte que toutes les centrales qui fonctionnent et même celles qui seront mises à l'arrêt soient faites dans des conditions de sécurité absolue, parce qu'on sait que le nucléaire est une énergie qui est une énergie dangereuse, donc il faut l'entourer de toutes les normes, et vous pouvez compter sur moi ainsi que sur tout le gouvernement pour y prêter une attention très forte.
La centrale de Fessenheim va fermer ?
Oui, mais c'est un engagement du chef de l'État, et j'ai toute confiance dans le chef de l'État pour mener à bien cet engagement.
Sur votre recommandation, une majorité de députés a voté le 17 mars dernier une sous-taxe de l'huile de palme importée. Cela défait la surtaxe progressive votée plus tôt par le Sénat à l'initiative du groupe Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ce revirement à 180 degrés ?
Alors d'abord, on va remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, dans la législation actuelle, l'huile de palme bénéficie d'une exonération fiscale, bénéficie de d'avantages fiscaux. Donc c'est ça la règle aujourd'hui. Au Sénat, pendant une des lectures de la loi biodiversité, les sénateurs écologistes avaient mis en place une surtaxe énorme à laquelle eux-mêmes ne croyaient pas et qui a été adoptée à la surprise générale. Tout le monde savait que ça ne pourrait pas tenir parce que c'était trop énorme et surtout, ça ne pouvait pas résoudre le problème essentiel qui est le problème de la déforestation, puisque c'est à ça qu'on s'attaque. Hein. Le problème de l'huile de palme, c'est qu'elle a créé d'énormes problèmes de déforestation avec des habitats détruits pour une biodiversité énorme, notamment la question des orangs-outans, mais ça n'est pas la seule. Donc moi, j'avais à gérer ce problème où je savais que cette énorme surtaxe qui avait été votée ne tiendrait pas. Et donc il fallait trouver une solution, et une solution qui résolve le problème de cette déforestation, parce que c'est ça le plus important. Donc on a réfléchi avec les différents acteurs, y compris avec les collègues écologistes, et on a trouvé une solution qui est une solution de compromis qui nous paraît être une meilleure solution. La première chose, c'est que d'abord on supprime l'avantage fiscal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avantage fiscal pour l'huile de palme, qui maintenant est taxée à la plus haute taxation qui existe pour les huiles actuellement. Donc ça c'est la première chose. Donc déjà, on ne va pas dire des bêtises, aujourd'hui on a supprimé l'avantage fiscal. Et ensuite, nous avons introduit dans la loi une mesure qui est une mesure très intéressante, qui est une mesure comme quoi nous allons exonérer de cette surtaxe les huiles qui proviendraient de filières certifiées. Aujourd'hui, les filières certifiées sont en train de se mettre en place et selon les ONG que nous avons consultées, comme le WWF par exemple, les certifications commencent à aboutir. On commence à arriver à quelque chose de sérieux. Donc nous, ce qu'on veut encourager, c'est ce système-là. Parce que ce système-là, non seulement il sera beaucoup plus efficace qu'une surtaxe sur un seul pays pour la préservation de la biodiversité et de la forêt. Et en plus, ça nous permet de donner une solution aux pays comme l'Indonésie, par exemple, qui sont des pays producteurs d'huile de palme, qui sont sortis de la pauvreté grâce à cela. On doit les aider plus tôt à se développer autrement et à se développer de manière durable, plutôt que de leur dire « Eh ben, on vous punit et débrouillez-vous ». Voilà, donc c'est une solution moins spectaculaire, mais qui, à mon sens, sera plus utile pour aider contre la déforestation.
Nous allons maintenant aborder, si vous voulez bien, quelques sujets d'actualité. François Hollande était sur France 2 le 14 avril dernier dans l'émission Dialogue citoyen. Il avait 90 minutes pour convaincre et défendre surtout son bilan à un an de l'élection présidentielle. Qu'avez-vous pensé de la prestation du chef de l'État, suivie par 3,47 millions de téléspectateurs ?
C'est toujours une prestation qui n'est pas évidente pour un chef de l'État face à une situation qui est une situation aujourd'hui, qui est une situation difficile, que ce soit une situation sociale difficile, une situation politique difficile. Il avait une mission qui est une mission qu'il a essayé de remplir. Après, on voit bien que ça doit continuer, qui est d'essayer d'expliquer ce qui a déjà été fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan des 4 ans, des 4 premières années de mandat, on voit qu'un certain nombre de mesures ont été prises et n'ont peut-être pas été vues et entendues par la population. Après, il faut aussi comprendre ce que la population ressent et lui dire qu'on continue à travailler pour eux. Moi, ce que je trouve de pire aujourd'hui, c'est qu'on ne parle que d'une chose, c'est de la présidentielle de l'année prochaine, comme si l'année qui venait ne servait à rien. Pour moi, c'est absolument insupportable. C'est absolument insupportable de dire aux électeurs, il n'y a plus que de la politique politicienne qui compte, de savoir qui sera le meilleur pour être le futur candidat à la présidentielle pour dans un an, et d'arrêter de travailler pour les Français, alors qu'aujourd'hui, on voit à quel point il y a besoin de continuer de travailler.
Actuellement, les primaires sont à la mode, à gauche comme à droite. On parle beaucoup des candidats, on parle beaucoup de leur stratégie. Mais finalement, on parle assez peu du fond, des propositions qu'ils vont faire. Cette gesticulation médiatique autour des primaires ne remplace-t-elle pas simplement un manque de vision politique ?
Bah écoutez, ça c'est une excellente question. Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui... Alors beaucoup emploient cette expression qui n'est pas une très belle expression, mais c'est pas complètement faux. On est dans un concours de beauté où là tout le monde explique comment il va être le meilleur, comment il va être le plus beau, mais on a un manque... clair de débat sur le fond. On est dans « Ah, ceux qui sont au pouvoir font mal, nous on va faire bien, mais finalement on ne sait pas bien et ce qui est derrière le faire mal ou faire bien ». On est face à des enjeux énormes aujourd'hui, on est dans un monde qui a beaucoup changé, on a la question de la mondialisation, la question du terrorisme, la question du nouveau développement économique fondé sur le développement durable. Toutes ces questions-là sont des questions absolument essentielles qu'on entend peu aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est peut-être en cela qu'on peut voir qu'il y a un besoin d'avoir ces débats. Et comme ces débats ne se font pas sur la scène politique aujourd'hui, ben ils se font ailleurs. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des mouvements qui se montent un petit peu partout, de gens qui ont envie de se parler et qui ont envie de parler de fond. Et quelque part, il faut que ça interpelle beaucoup de ces personnalités politiques qui ne pensent aujourd'hui qu'à la présidentielle et qui devraient un peu plus penser à quel est le monde qu'on veut pour demain.
Justement, ces mouvements des Nuits Debout, vous y faites référence, ils rassemblent beaucoup de monde, place de la République et en province. Illustrent-ils le rejet du politique aujourd'hui, ou bien du gouvernement, parce qu'on le voit, nombre de revendications concernent les actions gouvernementales, la loi travail par exemple notamment.
Oui, mais vous voyez, comme pour beaucoup de mouvements, c'est souvent parti à partir d'une protestation sur un sujet, c'est des mouvements plus larges que ça. Il y a effectivement un rejet du politique en général, auquel beaucoup doivent essayer de réagir sur le mode de fonctionnement de notre politique, nos institutions, les partis politiques. Toutes ces questions-là sont des questions qui méritent d'être posées. Sur la loi El Khomri, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre cette loi, qui continuent à l'être, d'autres qui essayent de suivre un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que la loi El Khomri, telle qu'elle était au début, n'a plus rien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai pas, peut-être... que j'ai mal entendu. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de débats autour de l'évolution de cette loi. Donc on voit bien que cette loi est devenue un espèce d'étendard, un symbole, mais qu'on ne regarde plus complètement le fond. Elle est devenue une forme de point de départ pour des réflexions beaucoup plus larges. Donc sur ces phénomènes de nuit debout, etc., attention à la volonté de récupération que certains mouvements pourraient en avoir. Donc j'essaye de faire la part des choses, parce que ce n'est pas un mouvement monocolore. On voit bien qu'il y a dedans des militants très engagés, mais il y a aussi des gens qui simplement ont envie de discuter. Est-ce que ce mouvement a vocation à perdurer ? Je n'en sais rien. Il ne peut perdurer que s'il montre qu'il a une certaine ouverture sur les débats, c'est-à-dire avoir des vrais débats.
Vous condamnez l'accueil qui a été réservé au philosophe Alain Finkielkraut ?
Bien sûr, mais ça dessert ce mouvement de toute façon, parce que quand on n'est pas d'accord, et je conçois qu'on puisse ne pas être d'accord avec un bon nombre des positions prises par Alain Finkielkraut, le rejet du débat donne une image assez terrible, alors qu'il aurait suffi au contraire, enfin je ne sais pas, moi je ne suis pas à leur place, mais il aurait suffi au contraire de dire « Ah bah tiens, tant que vous êtes là, venez, installez-vous et on va discuter d'un certain nombre des positions que vous défendez, que l'on trouve un peu choquantes pour telle ou telle raison ». Là, le rejet total montre une fermeture de certaines personnes dans ce mouvement qui le dessert clairement.
On va aborder Europe Écologie Les Verts, le parti auquel vous appartenez. Une large partie du mouvement écologiste était en désaccord avec la politique gouvernementale, Europe Écologie Les Verts à l'époque. Emmanuel Cosse, Jean-Vincent Placé, vous-même acceptez des postes ministériels, ce qui a entraîné une scission au sein du groupe. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir privilégié une ambition personnelle aux dépens de l'unité de la ligne politique d'Europe Écologie Les Verts ?
Alors, j'avais quitté Europe Écologie Les Verts bien avant d'entrer au gouvernement parce que j'étais, comme nombreux écologistes, en désaccord avec la ligne politique de ce parti qui est devenu un parti de plus en plus replié sur lui-même, de plus en plus sectaire et qui, du coup, ne représente plus, et là moi je le dis clairement, ne représente plus l'écologie en France dans toute sa richesse. Il représente une toute petite partie de l'écologie, qui est une écologie contestataire, qui est une écologie qui ne veut pas avoir de rapport avec le pouvoir. Et toute la question est celle, effectivement, de l'exercice du pouvoir. Quand on fait de la politique, on en fait pourquoi ? Si c'est juste pour commenter ce que font les autres, pour moi ce n'est pas faire de la politique. On peut être revendicatif, on peut protester contre un certain nombre de mesures, c'est parfaitement légitime. Par contre, Être dans un parti politique, c'est vouloir accéder aux responsabilités et les exercer. Et exercer les responsabilités, ben, c'est les exercer au niveau local, c'est les exercer au niveau régional, mais c'est aussi les exercer au niveau national. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'écologistes qui ne supportent plus ce principe que quand on exerce des responsabilités, on aurait des ambitions personnelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, exercer des responsabilités, ça veut dire mettre les mains dans le cambouis. Voilà, ça veut dire se confronter aux problèmes réels. Du vrai monde, pas du monde tel qu'on aimerait qu'il soit. C'est avoir un idéal et essayer d'aller vers cet idéal, mais dans le monde tel qu'il est. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat que de prendre des positions derrière un micro ou devant son ordinateur ou devant des militants. C'est plus difficile parce qu'il faut se confronter aux lobbies, parce qu'il faut se confronter aux associations, parce qu'il faut se confronter aux gens qui ont des inquiétudes auxquelles il faut répondre, parce qu'il faut leur proposer des solutions, parce qu'il faut essayer de trouver des compromis. Tout ça, c'est effectivement beaucoup moins sexy que certaines prises de position. Mais c'est plus utile.
C'est difficile d'être ministre aujourd'hui ?
Ah, c'est une mission ambitieuse et difficile parce que, comme je vous l'ai dit, on a à devoir gérer avec des intérêts très divergents en essayant toujours de garder à l'esprit l'intérêt général et de la direction dans laquelle on veut aller. Et cette direction-là, il faut s'y tenir, mais il faut avancer en faisant des compromis. Il faut avancer en étant dans le rapport de force, parce que le rapport de force, ça existe. Donc oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est passionnant, parce que là, on a l'impression d'agir pour faire, allez, je vais le dire, pour améliorer la vie des gens et pour penser au futur. C'est très exaltant, mais difficile.
Pour terminer, Barbara Pompili, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a lancé son mouvement En Marche. Il ne cesse de surprendre, on peut dire qu'il bouscule les codes. C'est un laboratoire d'idées hors parti, en tout cas il le voit comme ça, avec l'envie de faire de la politique autrement. Que pensez-vous de la démarche du ministre de l'économie, vous qui êtes membre du gouvernement ?
Mais je trouve qu'il a tout à fait raison d'apporter sa pierre au débat. On le disait tout à l'heure, il y a une envie de débattre, il y a une envie de réfléchir au monde dans lequel on est et au monde tel qu'on a envie de le façonner. Et bien ça, toutes les personnes qui veulent apporter leurs idées et leurs pierres à ce débat sont les bienvenues. Macron peut déranger parce qu'il a des idées un peu iconoclastes, parce qu'il bouscule les codes. Mais c'est très bien. C'est très bien. Je ne dis pas que je suis en accord avec toutes les idées qu'il professe, mais il apporte des idées différentes. Très bien, tant mieux. Pourquoi y en a-t-il qui ont peur à ce point du débat ? Le débat, c'est positif pour la démocratie. Donc tous ceux qui veulent apporter leur pierre au débat, même s'ils ont des idées différentes, et surtout s'ils ont des idées différentes, doivent le faire, et donc il a bien raison.
Merci à vous, Barbara Pompili, de nous avoir reçus dans vos bureaux.
Merci à vous, et puis à bientôt.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous la retrouverez sur notre site internet www.rvradio.fr. Merci de votre fidélité. À bientôt.